Donc, pour dire le moins possible de bêtises, je préfère que les intervenants se présentent eux-mêmes et présentent eux-mêmes le sujet. Comme ça, je suis sûre que je n'aurais pas dit des choses fausses.
Alors, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette journée d'études, de travail, de réflexion. Je suis donc le frère de Jean-Baptiste Vendu, dominicain du couvent de Lyon. Nous sommes 18 frères cette année, c'est un couvent de formation aussi, donc c'est l'un de mes frères qui, après le noviciat, a commencé leurs études de philosophie, de théologie. Je suis sous-prieur de ce couvent, et comme apostolat, j'ai essentiellement un apostolat auprès des jeunes, puisque je suis aumônier d'un centre scolaire au sud de Lyon, le centre scolaire Saint-Thomas d'Aquin Veritas, qui a été fondé par les frères de Cézanne et qui ensuite été repris par les frères dominicains pour le faire la Cordelaire. De là, en fait, est partie après toute une formation enseignante. Et donc, c'est une école qui essaie de vivre encore aujourd'hui, à sa manière, encore un peu d'une histoire dominicaine, cette histoire, qui est aussi d'un charisme dominicain. Donc, je vous accompagne, ça fait 7 ans que je suis dans l'établissement, des élèves en primaire, au collège et au lycée, un gros centre scolaire. Et puis j'interviens aussi pas mal en fait en pastorale d'étudiantes et jeunes pros. J'accompagne un parcours Even, qui est un parcours de formation à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis j'ai aussi la mission pour la province, donc j'appartiens à la province dominicaine de France, et donc de fédérer, de coordonner, de promouvoir les apostolats que les frères peuvent mettre en place auprès des jeunes, que ce soit des initiatives personnelles, que ce soit en fait des couvents qui font des propositions. Et donc on a fondé il y a quelques années une association qui s'appelle Jubilatio Jeunesse Dominicaine. Et donc ma mission est de susciter une synergie en fait provinciale pour nos multiples apostolats qu'on peut avoir aussi bien en présentiel, comme on dit aujourd'hui, à travers des sessions, des camps, des pèlerinages, mais aussi en distanciel avec des propositions telles que Théodom qui est en ligne, et d'autres propositions qui sont faites aussi.
Voilà, donc... Je suis père Antoine Guidalin, donc prêtre du diocèse de Paris. Je suis actuellement formateur en propédeutique à la Maison Saint-Augustin, donc pour les propédeutes de Paris et d'autres diocèses d'ailleurs. Nous avons 13 propédeutes cette année. Et je suis aussi professeur à la faculté de Notre-Dame des Bernardins, en théologie fondamentale. Enfin, c'est très variable en fait, donc généraliste plus que spécialiste. Là, par exemple, je donne un cours sur l'Eucharistie, donc vous voyez, ça peut, les choses peuvent être un peu ouvertes à différentes disciplines. Et là, une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est que j'ai écrit l'an dernier un livre qui s'appelle « Personne », qui se veut être une sorte de réflexion, de discernement sur les enjeux du numérique pour l'anthropologie. Voilà. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je vous parlerai cet après-midi. Peut-être on va présenter le programme de la journée. Voilà,
Et chaque fois que la lune se passe, n'inquiète
pas. Ah oui, on se croirait la guerre.
Ça marche.
Bon. On va peut-être éviter le bizarre comme vous dites.
Voilà. Donc le programme donc, de la journée, donc il y aura deux interventions. Moi, je vais commencer donc, ce matin avec cette thématique, donc les jeunes et numériques, un regard sur quelques enjeux. Alors, moi, je n'ai pas une approche universitaire, j'ai plutôt une approche pastorale. Je n'ai pas non plus formation en fait en communication, je ne suis pas non plus ingénieur en informatique. Mais voilà, à partir de ce que j'observe en fait au contact des jeunes depuis maintenant quand même 10 ans, ce que j'ai pu un peu découvrir du numérique, voilà, c'est un peu comme vous, un peu novice aussi dans ce domaine-là. Donc, j'ai découvert pas mal de choses, le partage que j'ai découvert et puis un petit peu. Aussi l'analyse que j'en ressors, quelques enjeux voilà, qui me paraissent importants, mais je pense que c'est surtout le père Guidalin qui aura l'occasion d'approfondir plutôt des enjeux anthropologiques, peut-être théologiques et philosophiques, cette question un peu du numérique, comment ce numérique aujourd'hui façonne, en fait, je crois, une anthropologie, et comment façonne l'homme, je crois que c'est un peu ça aussi moi, que j'aimerais vous montrer ce matin. Donc je vais commencer en fait par mon intervention, je suis désolé, et ensuite on aura peut-être un temps de... Petit atelier de réagir par rapport à ce que vous présentez. Et ensuite, on fera une remontée un peu en assemblée. Et donc, nous aurons ensuite la messe
à midi,
voilà, suivi du déjeuner. Et on se retrouvera donc en début d'après-midi, donc là l'intervention donc, du père Vidalin.
Oui, voilà, je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur les enjeux qui sont liés au monde numérique et à l'expérience numérique dans son ensemble. Et il y aura des petits ateliers après sur des thématiques. On ne les a pas nommées, je vous les donnerai. Et puis ensuite, on terminera deux jours à partir de vos questions plus larges, voilà, au terme de la journée.
Donc je vais commencer donc, sur cette thématique, donc les jeunes numériques, un regard sur quelques enjeux. Le but de cette intervention, c'est de vous montrer un peu d'abord de quoi on parle en fait quand on parle du numérique. Quel est ce phénomène, je crois que c'est vraiment un phénomène aujourd'hui, de loi qui concerne en fait beaucoup de personnes, en tout cas une grande partie de la société. Je vais vous demander quand même le chiffre, alors le but c'est pas de retenir, mais vraiment prenez conscience un petit peu de ce que c'est aujourd'hui le numérique, de l'impact en fait du numérique dans la société, et notamment chez les jeunes, hein, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et après, dans une deuxième partie, voilà, j'ai souligné, ça permettra je pense d'introduire peut-être la thématique qu'on va davantage travailler cet après-midi, voilà, vous soulignez pour moi quelques enjeux, comment aujourd'hui ce numérique, notamment les réseaux sociaux, j'ai beaucoup attiré en fait sur les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux aujourd'hui façonnent en fait des personnalités, comment on façonne en fait un peu même une nouvelle humanité, et comment les jeunes, vous allez voir, en fait, sont partie prenante, à la fois acteurs, mais en même temps aussi consommateurs, et en même temps, voilà, sont voilà, sont ceux qui les nouvelles générations là, qui arrivent, voilà, sont celles qui en fait, n'ont pas choisi, mais ont grandi dans ce monde-là, et donc forcément, ça a des conséquences, je crois, sur pas mal de manières de pouvoir d'appréhender le monde, mais aussi de structurer leur personnalité. Alors, le numérique, de quoi parle-t-on ? On va essayer donc de... Comme il y a pas mal de chiffres, en fait, voilà, je vous ai fait un diaporama, ce qu'on appelle ça maintenant, une projection. Ça permet comme ça d'illustrer un peu ce que je peux dire. Voilà, donc le numérique, donc de quoi parle-t-on ? On parle de plusieurs choses pour parler du numérique. D'abord, on parle en fait des acteurs ou plateforme, qu'on appelle les GAFAM, si vous connaissez cet acronyme qui regroupe en fait donc les 5 géants américains du web, du numérique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, voilà, ces grandes chaînes qui ont devenu le marché du numérique, donc pour ceux qui sont les grands acteurs en fait, quand on parle du numérique, c'est pas forcément en fait on fait écho, on parle de ces firmes-là, qui aujourd'hui quand même façonne notre monde. Donc les GAFAM, vous avez mis leur logo, hein, donc GAFAM, en fait, donc c'est les premières lettres de chacune de ces firmes. Quand on parle du numérique aussi, on parle des outils, à savoir les outils, ce qu'on appelle les objets connectés, hein, c'est-à-dire des objets qui sont dotés de capteurs capables de communiquer, donc d'envoyer, de recevoir des données à travers un réseau, que ce soit donc les ordinateurs, voilà, c'est classique. Les smartphones aussi, qui de plus en plus maintenant sont connectés. On parle aussi des tablettes. On a maintenant donc les montres connectées, qui sont très, très en vogue aujourd'hui. On a tout ce qui est aussi les écouteurs intelligents, aussi, qui sont connectés, qui permettent d'écouter la musique, mais c'est bien plus que ça. On a les vêtements intelligents maintenant, ça commence à se commercialiser. On a tout ce qui est assistants vocaux, les enceintes connectées, hein, qui permettent eh bien, d'avoir ça dans sa maison, parce que de plus en plus aussi, la maison aussi est connectée, donc qui permet justement en parlant à voix haute, bien de demander d'avoir les informations, demander qu'on puisse que la lumière s'allume, d'éteindre la lumière, de fermer les portes à clé, voilà. Donc, les enceintes en fait qui sont vraiment des assistants qui permettent de nous faciliter la vie. On a aussi des lunettes connectées, des porte-clés connectées, des pommeaux de douche connectés, voilà, qui permettent aussi de réguler donc, la température, la pression. Voilà. Les voitures connectées, et puis les robots connectés, donc c'est bien sûr donc le fantasme du robot qui pourrait nous assister dans notre vie quotidienne, mais bon, c'est aussi tout le monde de l'entreprise qui permet l'industrialisation. Donc vous voyez, c'est tout un monde de, voilà, qui est connecté, qui est en réseau, hein, donc cette image là, que j'ai voulu illustrer, et qui montre eh bien, que nous sommes tous en fait, eh bien, reliés en fait, à Internet, et que de plus en plus, en fait, c'est l'homme est en interaction avec des objets, avec un monde virtuel, qui est là pour, qui est vraiment en fait comme un support, et qui est même comme des prothèses, on parle de Steve, de tous ces objets connectés comme des véritables prothèses, hein, qui viennent augmenter l'homme, qui viennent améliorer son cadre de vie. On estime donc qu'il y avait 500 millions d'objets connectés en 2003, 25 milliards en 2015, et qu'il y en a 50 milliards en 2022. Vous voyez, en fait, nous sommes toujours en fait dans une progression, et c'est d'ailleurs un peu le phénomène, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, le numérique est toujours en train de prendre de plus en plus de place dans notre vie. Quand on parle du numérique, on parle aussi des big data. On parle depuis quelques années du phénomène de big data, que l'on traduit souvent par données massives. Donc avec le développement des nouvelles technologies d'Internet et des réseaux sociaux ces 20 dernières années. Donc c'est la production en fait de données numériques qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ça peut être du texte, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, enfin tout plein de données en fait qui sont produites par notre usage justement de ces plateformes et aussi de ces objets connectés et qui forment donc un volume assez important de données numériques. Qui sont stockées, qui sont produites, et qui permettent aussi, eh bien, qui sont une source précieuse en fait d'informations, car elles sont exploitées pour tout un tas d'informations, et donc qui nous permettent en fait d'avoir un peu une approche quasiment le plus près possible en fait, eh bien, des comportements de l'être humain. Donc on voit en fait, il y a aussi en fait, avec ce schéma, on voit aussi donc la progression, l'estimation donc, du volume de données numériques hein, qui sont créées ou répliquées par an dans le monde, en zeta-octets, dans les zeta-octets, des milliards de gigaoctets, mais nous étions à 2 zeta-octets en 2010, et nous sommes maintenant à 181 000. Donc vous voyez, c'est des chiffres qu'on a dit un petit peu le tourné. Ces big data, en fait, sont intéressants, parce qu'on a souvent cette idée, en fait, quand on est sur Internet, que nous sommes là pour consommer, mais de plus en plus, en fait, de prendre conscience que nous ne sommes pas des consommateurs d'Internet, en fait, nous sommes consommés par Internet, nous sommes produits. Donc justement, en fait, eh bien, toutes ces données que l'on produit, ces informations, en fait, vont être revendues, et donc vont ensuite servir, en fait, pour nous, sans cesse, nous solliciter, notamment la publicité, en fait, eh bien, de beaucoup de ces données, pour d'ailleurs que nous soyons toujours le dernier outil à la mode, et que nous soyons toujours, en fait, de plus en plus assister en fait dans notre vie. Nous avons ensuite donc les plateformes, qu'on appelle aussi donc les réseaux sociaux. Donc avant l'avènement de l'ère du web, le terme réseau social désignait principalement un groupe de personnes ayant une affinité ou un intérêt commun, ce qu'on appelle également un cercle social. Et donc de savoir que depuis les années 2000, dans le monde virtuel, un réseau social est un site internet hein, qui permet aux utilisateurs, qu'ils soient pro ou de particuliers, de partager des informations. Donc pour ça, donc, chaque utilisateur donc, doit créer un profil pour publier, pour consulter aussi différents contenus, que ce soit des textes, des photos, des vidéos. Hein. Et tout ça en fait est mis en réseau, tout ça est mis en lien. Ce sont donc des grands espaces de partage qui offrent la possibilité à des millions de personnes d'être interconnectées. Hein, indépendamment de leur situation géographique. Enfin, nous sommes vraiment en plein dans la mondialisation, où ça permet en fait, eh bien, ces plateformes, ces réseaux sociaux, nous le nom, eh bien, permettent d'être en interaction avec le monde entier, de manière immédiate, et d'échanger justement eh bien, des informations. Il existe donc de nombreux médias sociaux qui se distinguent donc par leur fonctionnalité, le profil des utilisateurs et le but recherché. Donc selon eh bien, que l'on veut faire des créations artistiques, on va utiliser tel réseau social, qu'on veut retrouver des amis d'enfance, on va utiliser tel réseau social, ou qu'on veut au contraire eh bien, se montrer à un maximum de public, on veut diffuser une vidéo, on va utiliser un autre réseau social. Vous voyez, en fait, ça peut être utilisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser en fait, un seul réseau, mais on va utiliser en fait des réseaux qui vont se multiplier, hein, parce que selon l'objectif que l'on cherche à atteindre, eh bien, on va utiliser tel ou tel réseau. Et donc tout ça là aussi en fait est en lien, on parle du web, hein, le web c'est un peu de toile, hein, tout ça est en lien, tout ça est interconnecté, hein, et nous naviguons justement eh bien, aujourd'hui entre ces différences des réseaux sociaux. Alors pour nous avoir bien conscience de savoir, de quoi nous parlons, je vous ai fait un petit peu une liste hein, aujourd'hui des grands réseaux sociaux, j'ai pas tout mis hein, parce qu'ils sont très très nombreux, hein, mais de ceux qui sont les plus connus, les plus utilisés aujourd'hui en France et dans le monde. Nous avons donc Facebook, avec 38 millions d'utilisateurs en France, on ne le présente plus. On a Twitter, un coup de tweet, donc la plateforme de microblogging est aujourd'hui le réseau social star pour le partage d'actualités, donc beaucoup utilisé par les écrites par les institutions, donc sous forme en fait de textes très courts, on peut aussi partager quelques images, et donc de partager, diffuser une information. On a Pinterest, qui est une plateforme d'inspiration, qui est basée sur des photos ou des vidéos. On a Instagram, le format de ce réseau social, qui est le même concept que Pinterest, et met en avant le partage de contenus plutôt artistiques, des vidéos, des photos, des dessins, des peintures. On a YouTube, là aussi incontournable, donc le média de prédilection des vidéastes pros, mais aussi amateurs, ainsi que les acteurs du divertissement en ligne. Donc le YouTube, ça a quasiment aujourd'hui remplacé la télévision, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos sur à la fois informatives, mais aussi des vidéos de divertissement, et ça peut être utilisé notamment par n'importe qui. On a des vidéos, des Dailymotion, donc les concurrents de YouTube, avec des dimensions mondiales en moins, parce que Vimeo c'est américain et Dailymotion c'est français. On a Tumblr, une plateforme de microblogging où on échange des citations, des pensées du jour, des livres, des photos. On a plutôt dans des réseaux sociaux dédiés aux relations professionnelles, LinkedIn, vidéo, Slack, Zing, Facebook, The Workplace. On a ensuite Meetup, Eventbrite, donc des sites voilà, pour réseauter d'abord sur le réseau web, autour d'un intérêt commun qui sont rencontrés en V. Flickr, on a Reddit, Quora, Twitch, TikTok, Periscope, Snapchat, Flatshare, voilà, etc., TripAdvisor, WhatsApp, Deezer, Spotify. Et tout ça, en fait, on a toute la vie en fait, de l'individu eh bien, est mise en réseau parce qu'on bah, peut à la fois partager des vidéos, on peut partager aussi ses goûts gastronomiques avec TripAdvisor. On peut aussi échanger des messages avec un réseau familial ou un réseau d'amis avec WhatsApp ou Facebook Messenger. Avec Skype, on peut aussi, c'est un peu moins la mode, mais on peut aussi, on le faire avec Zoom, voilà, aussi, faire des vidéoconférences. Vous voyez, en fait, et bien, tous ces réseaux, en fait, nous permettent en fait, d'avoir multiples actions et pour un intérêt particulier, voilà, on va utiliser tel ou tel réseau, voilà, selon l'objectif que l'on cherche à atteindre. Donc, ils sont très, il y a encore, là, j'ai vu que les réseaux les plus connus, hein, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, il y a vu tous les réseaux aussi qui sont parfois un peu par zone géographique au niveau mondial, notamment, je pense, la Chine aussi, voilà, qui a ses propres réseaux, parce que voilà, tout ça aussi un petit peu verrouillé. C'est un aperçu, un bref aperçu, en fait, c'est la pointe de l'iceberg de tous ces réseaux sociaux qui peuvent exister. Je vous ai mis, donc il y a beaucoup comme ça de schémas avec pas mal de chiffres, je suis désolé, mais c'est vraiment pour montrer un peu l'ampleur un petit peu aujourd'hui du numérique et l'impact que ça peut avoir dans nos modes de vie et dans nos sociétés. Je vous ai mis ici en fait donc, le top des réseaux sociaux dans le monde en 2022, en millions d'utilisateurs. Vous voyez, donc celui qui surpasse un petit peu tout, donc c'est Facebook. Hein, donc nous sommes à 2 milliards d'utilisateurs hein, donc mensuels hein, qui utilisent en fait donc mensuellement donc Facebook. Oui, donc nous sommes aujourd'hui 8 milliards dans le monde, donc vous pouvez imaginer un petit peu la proportion. Enfin, YouTube aussi, on est aussi à 2 milliards, WhatsApp aussi, on est aussi à 2 milliards, enfin 2 milliards 500 000 pour YouTube, Instagram 2 milliards, voilà, etc. Donc les plus on descend en France, les chiffres baissent un petit peu, mais quand même, c'est des chiffres là, qui donnent un petit peu le tournis. On voit aussi, donc vous avez aussi l'évolution des utilisateurs actifs mensuels par réseau social entre 2008 et 2022. Donc vous voyez, en fait, pour montrer, en fait, voilà, c'est vraiment un phénomène qui est en progression. Hein, quand on parle des réseaux sociaux, c'est vraiment, on n'est pas plutôt sur une phase régressive, au contraire, on est plutôt sur une phase progressive, et qu'il y a de plus en plus, en fait, eh bien, d'utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux. Donc on voit donc Facebook qui caracole en tête, toujours YouTube, WhatsApp, pour trouver un petit peu notre podium. Et puis bon, parfois donc il y a selon aussi un peu les aléas aussi de ces GAFAM, il peut y avoir aussi parfois des baisses, mais oui, mais c'est vite, ça peut remonter. Hein. Donc il y a aussi des phénomènes de bot, mais quand même, il y en a quand même qui devinent un petit peu le lourd. Hein. Je vous ai mis, donc là, au niveau mondial, maintenant plutôt au niveau français, donc les réseaux sociaux et messageries les plus visités chaque mois en France. Donc on a quand même 48 millions donc, de visiteurs uniques, hein, mensuellement, donc qui utilisent Facebook, 47 millions qui utilisent YouTube, donc en France, hein, je rappelle, donc 60-70 millions d'habitants. WhatsApp, voyons, on est quand même à 38 millions, Instagram aussi à 35 millions, donc ensuite, on descend, on est quand même à 15 millions avec Twitter. Oui, donc là aussi, il y a les chiffres de Letourny. On peut aussi, donc ça en fait est très analysé, parce que bien, toutes ces big data donc, sont exploitées, sont traitées, hein, donc pour ça, on a besoin de faire des statistiques assez précises, hein, parce que toute connexion, en fait, est notifiée. Hein. Donc par tranche d'âge, ça aussi, c'est intéressant pour voir, en fait, eh bien, que selon les âges, on va pas utiliser le même réseau social, et donc justement, enfin, la difficulté, c'est que ça permet, enfin, ça rend difficile aussi le dialogue aussi intergénérationnel, parce qu'en fait, on veut être en relation avec les uns et les autres, mais en fait, les réseaux sociaux, en fait, un peu nous enferment un petit peu dans notre monde. Et donc, même les adolescents qui utilisent beaucoup Snapchat ne peuvent pas quasiment rencontrer ils peuvent rencontrer quelques 25-49, mais ils ne vont pas rencontrer de 50 et plus. Hein. Et donc, ils peuvent s'enfermer un petit peu dans leur monde. Donc, on a pour les 15-24, on a Snapchat qui marche beaucoup, on a Instagram, on a aussi Facebook. Pour les 25-49, on a Facebook là, qui continue encore à bien fonctionner. On a aussi Snapchat aussi qui n'est pas développé. On a WhatsApp. Et puis 50 et plus, donc Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. Voilà. Ça permet en fait de prendre conscience en fait, que selon la catégorie en fait, d'âge à laquelle on appartient, on ne va pas l'utiliser. Alors après, en fait, on voit aussi en fait, les souvent quand on a commencé avec un réseau social, on continue. En fait, ils nous accompagnent en fait, notre vie. Il y a 10 ans, ça avait été 50 et plus, en fait, j'étais lancé sur Facebook, c'était très à la mode, c'était très jeune, mais en fait, Facebook a vieilli avec ses utilisateurs. Alors, quel est l'usage de ces réseaux sociaux ? Voyez un petit peu comment on a vu un petit peu voilà, de quoi on parle, et voyez un petit peu maintenant comment on utilise tout ça, quelles sont un peu les pratiques. Donc là aussi, pas mal de chiffres. Donc Internet, là j'ai élargi un petit peu à Internet, l'usage d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde et en France en 2022. Donc si on regarde la première ligne, nous avons donc les internautes, nous avons donc 5 milliards d'internautes dans le monde, donc 63% de la population utilise Internet aujourd'hui. Et en France, donc on a 53,5 millions, donc 84% de la population utilise donc de manière quotidienne, un usage quotidien, utilise donc Internet. Et les réseaux sociaux, donc nous sommes à 4 milliards de la population, 4,65 milliards, donc 58% de la population mondiale qui utilise quotidiennement, j'insiste, hein, quotidiennement, donc les réseaux sociaux. Et en France, on est à peu près, dans les chiffres, hein, puisque nous sommes à 35,6 millions, donc 56,4% de la population utilise là aussi, donc quotidiennement, les réseaux sociaux. Donc dans 5 ans, c'est un phénomène de masse. C'est pas simplement, c'est pas un petit phénomène, c'est que nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre, par bien sûr par l'usage d'Internet, mais aussi par l'usage des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, justement, en fait, un peu les réseaux sociaux, en fait, on peut dire ça comme ça aussi, en fait, sont le premier usage en fait, d'Internet. Parce qu'on peut y faire beaucoup de choses en fait, sur ces réseaux. Donc je pense si on se focalise un peu sur la France, donc on a 6 Français sur 10 donc, qui les visitent chaque jour, donc 56% de la population des Français, c'est un peu le même chiffre que je vous ai dit tout à l'heure, donc 35,6 millions de visiteurs uniques quotidiennement sur les réseaux sociaux, et 27 millions qui utilisent donc, des messageries instantanées dans WhatsApp et puis d'autres types de messages. Sur quoi le temps passé maintenant, par jour. Là aussi c'est intéressant de voir un petit peu comment... Donc là aussi ça va être différent selon les tranches d'âge. En moyenne, un internaute français passe 45 minutes par jour, rien que sur les réseaux sociaux et messagers. Donc c'est plutôt stable, donc ça c'est le chiffre en fait date d'octobre 2021, qui était plutôt stable par rapport à l'année précédente. Alors forcément aussi le déconfinement, enfin, le Covid un petit peu, enfin, de chambouler un peu les chiffres. Mais bon, c'est plutôt un chiffre, on se rend compte, depuis quelques années, qui est assez stable, semble-t-il. Alors que chez les plus jeunes, les 15-24 ans, nous sommes à 2h quand même 7 par jour, hein, donc passés sur les réseaux sociaux. 2h par jour, en fait, hein, un jeune passe, hein, j'allais voir que les acteurs, c'est beaucoup plus, hein, passe 2h de temps, il passe hein, par jour sur les réseaux sociaux. Donc là, ça en baisse par rapport à l'année précédente, mais il y a eu du premier confinement. Donc forcément, voilà, là, ça a explosé. Mais je pense que là, ça va se stabiliser, même si on a quand même observé quand même un phénomène où les jeunes, de plus en plus, en fait, suite au confinement, ont pris l'habitude d'utiliser Internet et d'utiliser les réseaux sociaux. Parce parce que y a beaucoup de choses qui se sont informatisées, enfin, je pense notamment pour tous les collégiens lycéens, enfin, maintenant il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Enfin, les confinements ont donné un sacré coup d'accélération en fait, à l'usage d'Internet, même pour les collégiens lycéens. Maintenant, de plus en plus de cours en fait, sont donnés sur Internet, en tout cas, doivent aller récupérer en fait, leurs cours sur Internet, toutes les plateformes qui sont développées pour permettre eh bien, là aussi l'enseignement. Alors, quelques focus justement sur les générations moi, qui m'intéressent, les gens que je fréquente le plus habituellement. On appelle donc en sociologie les générations Y et Z, donc enfants, adolescents, jeunes adultes, et leur usage des réseaux sociaux. Moi, je me situe un peu comme, comme pasteur au contact de jeunes, et donc moi, c'est un peu c'est ce que je fréquente tous les jours, que ce soit au collège, au lycée, mais aussi donc, dans les groupes que je peux accompagner à Lyon. Et donc, c'est pour ça moi, qui m'intéresse de voir un petit peu comment, quel est l'impact en fait, de ces réseaux chez cette génération-là. Parce que forcément, les générations d'avant voilà, ont un rapport un peu différent, parce qu'ils ne sont pas nés avec, ils ont découvert ces réseaux sociaux. Donc forcément, ils y vont toujours un petit peu avec beaucoup de mal. Hein. Alors que, en fait, c'est cette génération-là, la génération Y, la génération Z, hein, et cette génération qui est vraiment née, en fait, avec les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est une évidence. Donc il ne faut pas de question, en fait. Ils vont, ils font cette PC. Donc petit rappel sociologique, hein, qu'est-ce qu'on entend par ces différentes générations. Donc la génération X, c'est la génération qui est née entre 65 et 80. Donc la génération là, qui 65-80, je pense que vous voyez de quoi je parle, pas de commentaire. On a la génération ensuite Y, donc une génération à 65-80 qui n'a pas connu en fait, qui a pas connu Internet. On a la génération Y qui là, est née dans les années 80, fin des années 90. Donc là par contre qui a découvert Internet, et c'est ma génération. Enfin, j'ai vu arriver à la maison le premier ordinateur, j'ai vu les premières connexions. Les premières connexions Internet, voilà, c'est rentré progressivement en fait, et j'étais pas très vieux, donc voilà, c'est à la fois une découverte et en même temps, c'est quelque chose c'est un milieu avec lequel Internet, voilà, lequel j'ai grandi. On a la génération Z, où là par contre, l'Internet c'était partout, tout le monde avait Internet, mais Internet a beaucoup se démocratiser, notamment donc, grâce au smartphone, donc là Internet en fait est très facile d'accès, autant avant il fallait se connecter à un ordinateur, il fallait. Lancer le modem, enfin, ça faisait un temps de connexion, aujourd'hui c'est quasiment immédiat et instantané. La génération Z, pour eux, voilà, en fait, Internet, il est dans la poche. Et puis la génération Alpha, donc là c'est la génération qui est née donc, après 2010, et donc là qui est née, donc forcément pour Internet c'est plus qu'une évidence, mais surtout c'est la génération en fait, qui est née après le lancement des réseaux sociaux, et donc eux qui sont nés aussi avec les réseaux sociaux. Autant la génération Z a découvert les réseaux sociaux, autant la génération alpha est vraiment née avec les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est une évidence, c'est un moyen de communication qui est normal, qui pose aucune difficulté. Le temps passé sur les écrans, je pense, pour les générations. Donc moi, j'ai surtout m'intéressé aux générations un petit peu Y, voilà, Y, Z, mais surtout Z et alpha. Donc le temps passé sur les écrans, donc pour les 1-19 ans par semaine. Donc là aussi, on peut, par tranche d'âge, on peut regarder les 1-6 ans, vous voyez, donc on est quand même... voilà, donc on voit, c'est intéressant de voir, en fait, au départ, c'est beaucoup la télévision, donc on est quand même à 7 heures quand même par semaine, donc devant la télévision pour les 1-6 ans, on est à 2 heures, donc en 2011, pour tout ce qui est jeux vidéo, et puis on a 2 heures pour le web, et en 2022, vous voyez, ça a explosé, donc on est quand même à 6 heures pour devant la télévision pour un enfant entre 1 et 6 ans, on est à 4 heures pour les jeux vidéo, et vous voyez, en fait, Internet qui prend de plus en plus de place parce qu'on passe à 6 heures. Et puis, donc, si on regarde pour les 13-19 ans, donc les ados, hein, donc là, c'est un petit peu, on a les chiffres, hein, en 2022, là, c'est quand même assez effarant, parce que donc, on voit, c'est intéressant de voir, en fait, que c'est le web qui prend le dessus, parce que là, on passe à 17 heures par semaine, donc passer sur Internet par un lycéen, c'est le temps, voilà, qui passe sur Internet. Il passe 9 heures avec les jeux vidéo et il passe 8 heures devant la télévision. Donc on voit que j'aime bien cette slide parce qu'en fait on voit bien en fait que vraiment Internet en fait prend le dessus. Prend le dessus et vous voyez de manière assez importante. Sur la génération Z, alors comment un étudiant, aujourd'hui un étudiant en France, combien de temps aujourd'hui un étudiant passe par jour sur Internet? Voyons, on a 30% des plus de 25 ans, donc qui résident en France, qui passent entre 6h et 9h sur Internet par jour. Alors sur Internet, hein, donc c'est pas simplement les réseaux sociaux, ça peut être il peut suivre en fait un cours en visioconférence, il peut avoir des emails, même si il y a un plus gros email, mais il peut avoir des emails, il peut prendre un billet de train. Hein. C'est vraiment et après tout son téléphone aussi est connecté en permanence à Internet. Hein, donc forcément, ça fait, c'est pour ça qu'il y en a qui passent plus de 12 heures par jour, parce qu'en fait, le moins d'usage d'une application sur son smartphone, en fait, il utilise Internet. Enfin, c'est pour ça qu'en fait les chiffres sont quand même assez impressionnants. Alors comment est-ce qu'il utilise aujourd'hui, comment est-ce qu'un étudiant, peut-être là où c'est plus intéressant, en fait, comment est-ce qu'un étudiant aujourd'hui utilise Internet? Vous voyez, pour 71% de son temps, il utilise pour tout ce qui est justement réseaux sociaux, messagerie instantanée. Donc intéressant, en fait, son premier usage d'Internet, bien justement, c'est pour pour partager justement son centre d'intérêt, pour partager quelque chose de lui, mais on verra assez peu, et surtout, en fait, il vient pour découvrir ce que font les autres, et dans son propre réseau, parce que justement, en fait, il vient, on est toujours en fait dans son réseau, et pour communiquer. Alors, il communique absolument sur toutes ses émotions, sur ce qu'il vit dans l'instant. Il y a très peu d'informations, en fait, qui sont communiquées, c'est vraiment, en fait, une communication, en fait, de soi dans l'instant présent. Pour regarder des vidéos, de tout type, hein. ça peut être des séries qui sont très à la mode aujourd'hui, mais ça peut être, je vous dis, voilà, quand il scroll, donc quand il passe en fait un peu en revue sur ses réseaux, voilà, des différentes personnes, niveau différents, comment dire, profils à qui il est abonné. Donc il y a des vidéos, donc soit c'est quelqu'un qui se met, soit c'est une vidéo en fait humoristique, soit c'est, ça peut être un message politique, spirituel, voilà, tout type en fait de vidéos qui sont aujourd'hui très exploitées et très utilisées pour faire passer une information, mais aussi pour se montrer. L'actualité, donc le premier d'information pour un jeune aujourd'hui, c'est Internet. Hein. Donc 56% en fait utilise quand même, donc un Français sur deux, par rapport à la population, en fait, son usage d'Internet, en fait, pour la moitié, en fait, concerne, enfin, est un lieu pour lui d'information. Où il va chercher les informations. La musique, beaucoup de musique que la ville écoute, hein, parce qu'il y a beaucoup de plateformes en fait qui existent on a plein de musique en fait à disposition, et justement grâce à tout ce qui est aussi justement l'exploitation des big data de ces données, en fait on est capable, l'application est capable en fait de proposer en fait un tas de musique, en tout cas de proposer des musiques qu'il aime. Parce que du coup, voilà, il devine, en fait, il pressent en fait selon ses habitudes, en fait, il pressent quels sont ses goûts musicaux. Hein. Les jeux vidéo, donc soit personnel, mais aussi en réseau avec d'autres. Hein. Et puis les loisirs, alors je ne sais pas trop ce qu'on met sur cette catégorie de loisirs, parce qu'on peut dire que les vidéos c'est du loisir, que les vidéos c'est du loisir. Donc c'est d'autres loisirs qu'il va trouver sur Internet. Là j'avoue que je ne sais pas trop bien ce que ça peut recouvrir. Alors quels sont les réseaux sociaux dont il est plus utilisé aujourd'hui chez les jeunes, chez les 15-24 ans? Donc le premier réseau social qui est utilisé dans cette génération-là, c'est le réseau Snapchat, qui permet en fait d'échanger de manière, de courts messages qui n'ont pas en fait, ne sont pas stockés. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique de l'instantané, en fait on partage un message à son groupe d'amis. Voilà, comme je vous dis, c'est une émotion, ça peut être un sentiment, ça peut être une colère, ça peut être une information qui veut partager à un camarade, à un ami. Donc on a Instagram aussi qui est très utilisé aussi dans cette génération-là. Et oui, Facebook en fait est très peu utilisé pour cette génération, mais quand même. Et puis surtout TikTok qui a vraiment aussi à monter un peu en puissance. Hein. Twitter très peu, WhatsApp très peu. Discord aussi. Discord est une plateforme en fait qui permet de se retrouver en communauté et puis d'échanger, de discuter. On peut des salons virtuels qui peuvent se mettre en place. Et c'est vraiment un lieu d'échange. Mais c'est beaucoup dans des communautés qu'on choisit. Ça a souvent été pensé d'abord pour les gamers, donc pour ceux qui utilisent beaucoup les jeux vidéo, pour partager en fait des bons plans, des jeux intéressants. le temps passé par jour. Donc là, uniquement si on se concentre sur les réseaux sociaux, on voit qu'en donc la majorité, hein, 40% quand même, eh bien, passe entre 3 et 5 heures par jour rien que sur les réseaux sociaux. Et donc là, voilà, ça donne un petit peu l'ampleur. Alors pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Là aussi, un peu intéressant de voir en fait quel est leur usage, enfin, non pas forcément le temps qu'ils y passent, mais aussi qu'est-ce qu'ils vont chercher sur ces réseaux sociaux. Ils y vont en très grande majorité pour discuter avec leurs amis. Moi, ça a été découvert il y a 3 ans, je m'en pose un petit peu la question, mais pourquoi, qu'est-ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux? Moi, je pensais qu'ils allaient d'abord chercher en fait des informations ou suivre des influenceurs, mais pas du tout, en fait, c'est d'abord en fait pour eux un lieu de communication où ils vont échanger, je vous dis, entre eux, comme ils pourraient le faire en fait, dans une cour de récréation ou autour d'un verre pour des étudiants. Là, en fait, c'est sur les réseaux, ils se servent en fait des réseaux sociaux pour communiquer. Donc en fait, ils sont souvent en cercle fermé, en cercle restreint. Donc ils choisissent en fait un canal, donc un réseau social sur lequel en fait, eh bien, ils se retrouvent et ils échangent. Même s'ils se voient en fait en présentiel, en fait, ils vont quand même, eh bien, avec leur smartphone, échanger en plus des informations aussi, un échange qui va se faire aussi sur tel ou tel réseau social. Pour passer le temps, simplement, il n'y a toujours pas de raison particulière, mais voilà, on attend son bus, ou dans le bus on n'a rien à faire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On sort son smartphone, et puis ben, voilà, on passe son temps, on passe le temps. Pour s'informer, là aussi quand même 73%, eh bien, de leur temps justement est consacré à une recherche d'informations. Donc ça donne aussi à réfléchir aussi qu'est-ce qu'on partage aussi sur nos réseaux sociaux et quelle information aussi. On sait bien comment c'est parfois des moyens de communication qui sont souvent très courts. On a vu Twitter, hein, c'est quelques lignes. Les vidéos sur Instagram, on est à 59 secondes. Sur TikTok, c'est encore moins, j'ai plus les chiffres en tête, on a 30 secondes. Oui, donc ça pose la question, voilà, comment faire passer une information sérieuse en si peu de temps? Et pourtant, c'est un lieu où ils vont quand même, eh bien, s'informer. Ils vont s'informer. Pour se détendre, voilà, simplement pour le plaisir, en fait. Il y a la fois le côté passe-temps, mais il y a aussi le côté vraiment détente. Voilà, le côté détente, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu addictif, en fait, où on a plaisir, on trouve du plaisir, en fait, à regarder une vidéo, à regarder une image, à suivre tel influenceur. Pour le travail, certains utilisent. Notamment pour les étudiants, beaucoup pour des recherches de stage. Certains aussi ont trouvé leur emploi grâce en fait à un réseau social. Alors il y a des réseaux sociaux qui sont pro, mais d'autres pas forcément. En fait, on peut se partager sur Facebook, il y a des groupes parfois qui partagent des offres d'emploi. Pour partager leur vie, donc, c'est intéressant, en fait, simplement c'est 20% en fait de l'usage en fait des réseaux sociaux est un partage de sa vie. En fait, on va se mettre en scène. On a beaucoup, pendant longtemps, en fait, on pensait que c'était un lieu justement où simplement s'exprimer uniquement, utiliser les réseaux sociaux uniquement, voilà, ceux qui avaient des choses à dire ou ceux qui se mettaient un peu en scène, ou pour partager justement un souvenir de vacances ou partager un événement qui a pu être marquant dans la journée. En fait, on se rend compte que c'est assez peu, en fait. Ils sont d'abord, en fait, au niveau de la consommateur pour consommer, en fait, dans leur usage avant d'être acteur, en fait, de ces réseaux. Alors, quelques-uns le sont, mais ils sont très minoritaires. Pour participer à des débats, et pour stalker les autres, alors ça c'est quoi? C'est quand vous avez un crush. Donc nous, ce que c'est qu'un crush. Donc un crush, c'est quand vous êtes caché sur quelqu'un, dans la cour de récréation, dans la rue, et vous voulez tout savoir sur lui. En fait, il y a un côté un peu, moralement, ça pose des questions, un côté un peu voyeuriste. Hein. C'est vraiment d'aller chercher en fait un maximum d'informations, voilà, suivre en fait telle personne, savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il aime. Et donc, certains, en fait, vous voyez, on passe rien parce qu'il y a du temps, en fait, aller passer au scanner, en fait, et bien, ça peut être soit parce qu'il y a une personne justement qui est connue, hein, ça peut être justement quelqu'un en fait, qu'ils ont croisé, qu'ils ont flashé en fait dans la cour de récréation ou dans leur amphithéâtre, hein, et qui veulent absolument voilà, tout savoir de cette personne. Alors, ça, et parfois, ça sert aussi beaucoup pour le harcèlement. Il y a beaucoup d'harcèlement aussi, ça c'est un autre sujet, le harcèlement scolaire qui aujourd'hui ne fait plus dans la cour de récréation ou dans la salle de classe, mais qui malheureusement passe par les réseaux sociaux et ce qui du coup en fait rend le contrôle et le suivi très, très difficile. Le sentiment de dépendance aux réseaux sociaux des 7-25 ans, donc vous voyez quand même, donc assez partagé, certains ont le sentiment d'être ils pensent pouvoir se passer, voilà, quant à la question, en fait, ils pensent pouvoir se passer des réseaux sociaux pendant quelques jours, voilà, 29%, pendant quelques semaines ou quelques mois, 28%, donc quand même, pendant plusieurs années, 15%, et puis indéfiniment, voilà, seulement 14%. Donc il y a un sentiment de dépendance, c'est un peu moi ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un vrai sentiment de dépendance, en fait, à ces réseaux sociaux, parce qu'il y a un côté addictif, et en même temps, il y a le souhait, le désir, l'aspiration, parfois d'être ça aussi à distance, mais ne sachant pas trop comment s'y prendre, et surtout le sentiment en fait que s'ils mettent ça trop à distance, très vite en fait ils vont être coupés de leur réseau, de leurs amis. Voilà, ils perçoivent que pour eux c'est une vraie difficulté, ils sont addicts, et en même temps voilà, ils aimeraient bien pouvoir s'en passer, même si concrètement c'est parfois difficile. Enfin, parce que, voilà, ils pensent pouvoir se passer. Oui, ils aimeraient bien, mais après, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc ça, c'était un petit peu, voilà, d'abord une première approche, vous voyez, donc surtout, en fait, plutôt factuelle, un peu, quels sont aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle numérique, quand on parle numérique, c'est beaucoup parler des réseaux sociaux, qui ont pris une place importante, fondamentale, dans notre usage du numérique, avec, vous voyez, une génération, enfin, des générations, en fait, qui, aujourd'hui, voilà, sont pleinement immergés en fait dans cet usage-là. Et pour eux, c'est un usage voilà, qui occupe une grande partie de leur journée et de leur semaine, de leur temps et de leur existence. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Qu'est-ce que justement un peu commencer à souligner quelques enjeux anthropologiques, peut-être aussi apostoliques, spirituels, peut-être aussi justement de formation. Dans ces jeunes que nous aurons à accueillir plus tard dans nos communautés, parce qu'ils voilà, vont être façonnés en fait par cet usage numérique et par cet usage des réseaux sociaux. Je rappelle une petite citation du frère Eric Salobir, qui, vous savez, a beaucoup travaillé.
Ah.
Est-ce que
j'ai une question qui saute ?
Recording in progress.
Thank you. Voilà, donc pour commencer une petite session, bon, c'est vu et revu, hein, c'est pas un scoop, hein. Donc du frère Eric Salobir qui anime le réseau Optique, qui est un réseau qui essaie de réfléchir à tous les enjeux là aussi et l'impact en fait anthropologique que peut avoir aujourd'hui le numérique, hein. Et qui dit donc dans son livre Dieu et la Silicon Valley, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre non plus. Je crois que voilà, c'est important de. Je pense qu'il ne faut pas. Il y a un écueil, en fait, vous voyez, il y a une ligne de crête, en fait. On ne peut pas aduler, je crois, quand même, c'est toute la technologie. En même temps, elle nous est quand même pratique. Elle ne nous sert rien, on est content de l'avoir. Mais après, voilà, qu'est-ce que c'est, quel usage, en fait, on va en faire. Et que, quel que soit l'usage que l'on va en faire, en fait, elle nous impacte d'une manière ou d'une autre. La rapidité, la gratuité d'accès au contenu. Donc, joue également un rôle essentiel dans cet usage du numérique. Hein. Donc, résumé sous l'acronyme ATAWeb, Anytime, Anywhere, Any Device, les nouveaux médias offrent en effet la possibilité d'avoir accès à tout le temps et tout de suite, n'importe où et gratuitement. Enfin, puis voilà, donc d'avoir accès en fait absolument au monde et aux autres, mais enfin, ce que comprend le monde. Donc accès à tout le temps, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de manière voilà, immédiate, n'importe où, voilà, où que l'on soit, en fait, on peut avoir accès au monde. Et puis surtout, en fait, on a l'impression que ça ne coûte rien. Même si, voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu avec, quand on parle un peu des big data, c'est vrai que tout ça est gratuit, mais en fait, on le paye d'une manière ou d'une autre, dans la mesure, en fait, où, ben, quand on se connecte à Internet, on, voilà, tout est, en fait, tout est analysé, notre pratique, en fait, et les données que l'on produit, voilà, sont stockées, et après, donc, sont vendues et servent, en fait, à des firmes, en fait, qui en font un business. Et donc, nous sommes, je vous dis, en fait, nous ne sommes plus des consommateurs de business, mais nous sommes des consommés, nous sommes des produits de ce business. Donc, c'est gratuit, mais ça fait un prix. Dans cet environnement, donc, naît de nouveaux usages, de nouveaux comportements, et n'est pas sans conséquence dans la manière dont se structurent les personnalités. Les jeunes d'aujourd'hui sont, je crois, ça c'est plus mon analyse personnelle, donc décomplexés, soucieux de concret, sont à la recherche d'expériences fortes, d'innovation, de transparence, d'immédiateté, qu'ils vont transposer donc aussi bien dans leur usage du média et des médias que dans le monde réel. Un premier élément, justement, dans cette idée, en fait, que les jeunes d'aujourd'hui, ceux que nous rencontrons et ceux que nous sommes amenés à rencontrer ou à accueillir dans nos communautés, eh bien, et ça, il faut en avoir conscience, je pense, hein, parce que là, c'est marqué au fer rouge, je vous dis, dans leur personnalité, dans leur psychologie, que ce sont des jeunes, en fait, en quête de permanente de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que toutes les validations sociales, en fait, donc tout ce phénomène, justement, qui est mis en avant par les réseaux sociaux, comme, donc, qui sont, en fait, quand on like, voilà, quand on réagit, en fait, bien, à tel ou tel post, hein, donc ça peut être une vidéo, ça peut être une photo que l'on voit, ça peut être un commentaire, là, on réagit, hein, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est qu'on voilà, réagit, en fait, bien, à ce qu'a pu lire un tel ou un tel. Et donc, il y a cette idée, en fait, de récompenses, qui sont, donc, forcément, en fait, à court terme, et qui ont plusieurs effets, hein, donc une brève sensation de satisfaction, parce qu'en fait, bien, ça dure plus de seconde, donc nous sommes vraiment dans quelque chose de très bref, hein. Un sentiment d'appartenance, hein, d'appartenir, en fait, à... Il y a ce besoin en fait d'appartenir à une communauté, parce qu'on sait en fait si on partage telle chose en fait, dans telle communauté, eh bien ça va susciter en fait des réactions positives. Donc forcément, quand on fait des réactions positives, voilà, on va plutôt en fait on va s'enfermer un petit peu en fait dans un groupe de personnes qui nous ressemblent. Hein, c'est un peu le propre aussi des réseaux sociaux, je crois que ça nous enferme en fait dans un milieu qu'on a choisi, bien sûr, mais après en fait il est très difficile d'en sortir. Et toujours, en fait, on se pense et on réagit uniquement par rapport à ce milieu-là. Ça produit, justement, quand il n'y a pas ces validations, eh bien, un bref vide intérieur. Et puis toujours, en fait, une quête de nouvelles sensations, de nouvelles satisfactions. Et donc, c'est cet effet de drogue, en fait, où on va chercher, en fait, eh bien, à publier, à partager, à réagir, parce que bah, ça va entraîner la réaction d'autres. Et puis, du coup, ça nous plaît, ça nous satisfait. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes, en fait, qui se met en place. Et du coup, en fait, ce sont des jeunes en fait, qui sont sans cesse en fait, en quête permanente en fait, de reconnaissance. Qu'on puisse bien leur dire voilà, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est bien ou c'est pas bien, mais enfin, surtout que c'est bien, parce que c'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça qu'on leur cherche. Et du coup, en fait, ils se construisent toujours et sans cesse en fait, dans le regard des autres. Et aucune, en fait, c'est une perte en fait, de liberté intérieure. Et aucune, c'est. Et une incapacité, en fait, à. Une difficulté, une incapacité, ce que j'en trouve très donc positif et ayant l'espérance, en tout cas une vraie difficulté en fait d'être soi. Parce que tout ce que je me dis, tout ce que je dis, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux montrer de moi, en fait sans cesse est soumis à une sorte de validation, à une sorte de reconnaissance. Et donc je me construis toujours dans le regard de l'autre. Et je vais chercher en fait, il y a une certaine forme de validation, voilà, de ce que je peux dire ou de ce que je peux faire. On a aujourd'hui, nous sommes confrontés aussi à des jeunes libres d'apprendre, avec un nouveau rapport à l'information, au savoir et à la connaissance. Là, je vous ai mis une photo d'un amphithéâtre de Lyon 3. En fait, donc, aujourd'hui, en fait, tout le monde en fait, a un ordinateur. On voit que c'est un conflit des générations. Il y en a quelques-uns en monde, d'autres pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que c'est court dans un amphithéâtre. Il y a le prof. d'ailleurs souvent le même comme moi derrière son ordinateur, et puis les étudiants qui sont donc dans l'amphithéâtre toujours, même si parfois beaucoup maintenant sont aussi en visio, en tout cas sont derrière leur écran. Alors on n'a pas la certitude, on ne sait pas ce qu'ils font derrière l'écran. L'écran, l'ordinateur, il est connecté à Internet. Alors peut-être que les fuissages prennent des notes, certainement. D'ailleurs, quand ça s'entend, parfois je m'en explique tout ça. En fait, le prof peut savoir en fait maintenant si les élèves, les étudiants suivent ou pas, enfin, au bruit. Parce que, en fait, quand tu tapes le clavier, c'est forcément ça fait du bruit. Et donc ça s'entend quand les étudiants prennent des notes. Dans un peu d'expérience, voilà, ça s'entend.
Non, mais les miens n'ont pas d'ordinateur.
Alors, quand ils ne prennent pas de notes, voilà, on le sait aussi. Mais ils font d'autres choses parce qu'ils sont captivés bien sur leur écran. Et je crois que ça entraîne en fait un nouveau rapport à l'information et aussi à celui qui enseigne. Aujourd'hui, l'accès à l'information est facilité et démultiplié. Voilà, on peut en fait avoir accès à absolument à beaucoup d'informations. Des sources multiples, ce qui, je crois, transforme profondément la représentation que les jeunes se font de la nécessité d'apprendre et modifie leur rapport aux traditionnelles autorités dépositaires du savoir ou d'une expérience de vie, que ce soit les parents, les enseignants, les pères maîtres, mais aussi les supérieurs. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi apprendre ? Ça sert à quoi d'apprendre, même d'apprendre par cœur ? Parce qu'en fait, si je veux l'information, il suffit de me connecter à mon smartphone, de prendre mon téléphone, et puis d'aller sur Internet, sur Wikipédia, de poser la question à Google, et puis Google me répond. Donc, en fait, il y a une sorte de flemme en fait, intellectuelle, paresse intellectuelle qui se met en place, où on n'aurait plus l'intérêt d'apprendre, parce qu'en fait, l'information, si je veux l'avoir, je l'aurai. Je sais où la trouver, et même si je ne sais pas où la trouver, Google saura me dire en fait où je peux trouver l'information que je cherche. Et puis donc ça produit aussi, je crois, en fait, un nouveau rapport donc, à ceux qui enseignent, à l'autorité qui a le savoir et qui transmet justement un savoir. Parce que, vraiment, c'est un peu un constat que je fais, que j'ai pu faire, et que moi-même aussi, ça m'est arrivé aussi, parfois aussi en cours, eh bien, de vérifier moi-même eh bien, sur Internet pendant que le prof parlait. Voilà, tel ou tel détail du cours, et de discréditer l'enseignant voilà, s'il fait une erreur sur une date, sur une référence bibliographique. Parce que voilà, moi j'ai accès en fait, immédiatement, en fait, j'ai l'information, et du coup ben, je peux prendre à partie en fait, l'enseignant en disant voilà, ce que vous dites c'est faux, la preuve, voilà, même si maintenant je serais bon au départ, mais vous voyez, ça pervertit un petit peu la relation de l'étudiant au maître. Et qu'en fait, je crois que tout l'enseignement qui est reçu aujourd'hui est sans cesse discuté, remis en cause, analysé, à l'aune d'un critère déterminant. Est-ce que celui-ci, celui qui me parle, est-ce qu'il correspond à mes attentes ? Je crois que c'est foncièrement aujourd'hui, en fait, cette transformation du rapport à l'enseignement et à l'enseignant, où en fait, je vais chercher, en fait, là aussi, un petit peu. Dans le regard de l'autre, enfin, je vais chercher aussi je choisis un petit peu mes enseignants, je choisis un petit peu le savoir que je veux recevoir, selon mes attentes, selon mes aspirations, et si ça me déplaît, en fait, eh bien, je vais pas rentrer dans un débat critique, je vais aller voir ailleurs, parce que je sais que je peux trouver mieux ailleurs, facilement. Pour les jeunes cathos, alors voilà, là aussi, hein, c'est un peu des généralités, hein, mais moi, un peu ce que je constate, hein, c'est que ça, bon, ce nouveau rapport, justement, cette liberté d'apprendre, hein, se traduit par le fait qu'ils construisent leur foi de manière très personnelle, avec les moyens qui leur sont donc, familiers, donc Internet. Hein. Alors, ils piochent ainsi à droite ou à gauche selon leurs besoins. Et la conséquence, pour moi, je crois que c'est une culture religieuse qui devient très approximative. Parce que voilà, ils vont en fait récupérer les infos un peu ce qu'ils veulent entendre aussi parfois. Et justement, en parlant d'autorité, ben, le pape justement est pour eux une référence importante, une autorité qu'ils respectent, même s'ils se sentent libres de se conformer ou non à ses positions, notamment en matière de sexualité, mais pas que ça. Et que ce qu'ils apprécient chez lui, c'est sa capacité à faire réfléchir sur le sens de la vie et de la personne. En fait, ils vont moins aujourd'hui en fait, recevoir en fait, l'enseignement du pape, du magistère, hein, de l'église, son énergie en fait. Ça. De manière doctrinale, mais ils vont piocher voilà, ce qui les intéresse, ou en tout cas ce qui semble correspondre aujourd'hui à leur attente. Donc nous avions donc des jeunes donc, en quête sans cesse de reconnaissance, en quête de validation sociale, des jeunes libres d'apprendre, et puis je crois que ça, on a tous ces réseaux sociaux, tout ce rapport au numérique aussi, et bien fait que nous avons aussi aujourd'hui des jeunes très spontanés. Notamment donc, ceci peut s'expliquer, mais ça je pense que le verbe d'Alain parlera beaucoup cet après-midi dans un nouveau rapport à l'espace et au temps. Je ne vais pas trop m'étendre en fait sur cette thématique-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en raison d'une perméabilité de l'espace, quand là où l'on soit, on reçoit des notifications de toutes sortes, privées, familiales, commerciales, professionnelles, et d'un surinvestissement du temps, on observe un phénomène d'ubiquité, ou de ce que certains spécialistes appellent la déspécification des espaces-temps. Autrement dit, on communique avec les amis durant le repas, on répond à ces messages en rédigeant aussi un texte, un travail, un devoir, je ne sais quoi, ou pendant une réunion, voilà, on répond à un mail, on répond justement en fait un message qu'on peut recevoir qui n'a absolument rien à voir avec la réunion. On travaille dans les transports en commun. Vous voyez, en fait, tout ça, en fait, eh bien, aujourd'hui, voilà, tout est. Avant, il y avait des lieux spécifiques pour le travail, pour le loisir, pour le contact avec la famille. Aujourd'hui, en fait, où que l'on soit, on peut être en cours et en fait, en train de gérer en fait, un drame familial, enfin, ou apprendre une naissance, ou enfin, je crois, le collectif. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, en fait, on est sans cesse en fait, sollicité pour des raisons multiples. Et ça, je pense, c'est rendu possible justement grâce à tous ces réseaux sociaux, mais aussi à cet usage aussi très facile d'Internet. Et donc, un tel phénomène, analyse le pape François, dans une exhortation apostolique Possibilita Christus Vivit, donc cette exhortation apostolique suite au synode des jeunes, il parlait de migration numérique. C'est-à-dire, en fait, eh bien, qu'il peut se produire, en tout cas, il observe chez beaucoup de jeunes, il peut se produire un éloignement de la famille ainsi que des valeurs culturelles et religieuses qui conduit beaucoup de personnes dans un monde de solitude et d'auto-invention, à tel point qu'elles demeurent physiquement au même endroit. Autrement dit, à force d'être partout et nulle part en même temps, il devient difficile de s'engager dans un lieu donné. Et en fait, on est nulle part, en fait. Parce qu'on est connecté, enfin, à force d'être connecté à tout le monde et tout le temps, en fait, on n'investit plus le temps présent. Ça, je pense que c'est une thématique que j'ai beaucoup abordée sur Facebook. Mais c'est qu'on est constamment en fait dans une sorte de fuite du présent, du réel, parce qu'on est ailleurs et avec un bon sentiment d'être en relation avec les autres, mais en fait on est nulle part en fait. Et puis la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui on peut observer aussi une évolution difficile de ce qu'on appelle donc l'économie de l'attention, voilà, très difficile de se concentrer, parce que bah, je vous dis en fait on est sans cesse en fait sollicité par plein de notifications en tout genre et qu'on fait plein de choses à la fois. Tout le temps. Et donc forcément tout est très bref. Donc on va rapidement répondre à un message familial, on va rapidement répondre à un mail qui a très beau prêt, je sais pas quoi, un apostolat ou une conférence. Et puis en même temps on va régler un problème avec le prieur, enfin, voilà, ouais, on est constamment en fait voilà, en train de régler plein de choses en fait en même temps. Et du coup en fait on est complètement dispersé. Et ce qui fait en fait pour survivre en fait on est toujours en fait à la fois on est dans l'instant présent, on est très spontané en fait, mais c'est quelque chose de très très fugace en fait, c'est très rapide et tout doit se faire très vite. Donc du coup il y a aussi ce phénomène aussi de sentiment aussi que le temps s'accélère. Et puis aujourd'hui, on a des choix de beaucoup de. Enfin, cette jeunesse, il fallait un peu la caractériser. Donc des jeunes qui sont autonomes, qui sont innovants. À nouveau, je crois que tout ce rapport à Internet a entraîné un nouveau rapport à la création, à la créativité. Toutes les potentialités, les techniques numériques apparaissent comme autant de possibilités offertes de faire et de produire plus autrement et autre chose. Donc voilà, on va créer en fait, on va. Et pour ça, en fait, ils sont très forts, en fait, ils sont capables d'imaginer, voilà, d'innover. Et à cela, on peut ajouter qu'ils sont habitués au mécanisme du jeu, ce qui se retrouve dans la plupart de leurs usages, quand ils consomment, quand ils travaillent, quand ils s'engagent. Ils aiment ruser, trouver des bons plans, être malins, et cherchent à contourner les problèmes en évitant l'affrontement, tout ce qui peut se poser de la difficulté, de la complexité. En fait, on va toujours au plus simple, au plus rapide, au plus efficace. Donc à la fois, oui, en fait, ils sont brillants. Enfin, je suis quand même frappé par une jeunesse vrai, qui est brillante, qui a des capacités d'innover, de créer. Voilà, c'est bien vu, les startups qui existent aujourd'hui, en fait, ils ont des capacités aussi à imaginer des nouvelles manières de, bah, aussi de vivre ensemble, d'interagir. Donc on sait qu'ils sont très innovants et en même temps, en fait, tout doit être réglé. Donc la moindre contrariété, la moindre difficulté, ils peuvent très vite en fait, se décourager, baisser les bras et passer à autre chose. Voilà, c'est pas grave. En fait, on passe constamment enfin, d'une réalité à une autre. Voilà, je pense que s'il faut les qualifier aussi, hein, voilà, que c'est pas. Ça peut, on peut le relier, mais je pense pas de l'intérêt avec tout ce qui est réseaux sociaux ou internet, mais je crois qu'il faut les caractériser aussi aujourd'hui en fait les jeunes, pour les motiver, pour les impliquer. Il faut mettre en avant la dimension de la convivialité, du bien-être, parce que c'est un grand thème aussi qui revient quand même très souvent. Et puis donc un très fort sentiment de liberté individuelle, hein, qui sont très autonomes, très indépendants. Bon, je pense que là aussi, je n'ai pas trop fait de lien avec tout ce qui est Internet, mais je pense qu'il y a forcément des liens aussi. Voilà, un peu un pêle-mêle de. Je pense que ça ouvre peut-être des pistes pour cet après-midi, pour nos échanges. Voilà. Voilà, c'est très centré sur les jeunes, parce que voilà, c'est mon expérience. Moi, je ne dis pas que j'ai beaucoup de questions. C'est à partir de ce que j'ai découvert, ce que je découvre aussi de ce monde-là, un monde voyez, qui est assez vaste, un monde qui est assez complexe, un monde qui évolue très vite, qui est parfois difficile justement à comprendre, c'est parfois difficile à suivre un peu tout ce qui se passe. Mais il s'y passe quand même beaucoup de choses, et je pense que c'est important voilà, d'être sensibilisé à cette thématique-là. Et puis voilà, moi ce que je peux observer, bon, c'est imparfait, hein, mais je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire. Mais ce que je peux observer aujourd'hui, même si on ne peut pas trop vite aussi mettre les papillons dans des cases, mais pour moi, on a quelques grandes caractéristiques un petit peu de notre jeunesse aujourd'hui, et de comment voilà, tout ce numérique un peu à venir façonner un petit peu les jeunes que moi je suis amené à rencontrer, et que vous certainement aussi, là où vous êtes, amené à rencontrer, ou en tout cas à côtoyer ou à accueillir dans vos communautés. Merci.
Une question. Pour
Oui, alors je pensais plutôt d'abord qu'il fallait peut-être en je ne sais pas si il y avait pour le tout ce qui pourrait être en tout partout, c'est possible aussi, mais mettre en fait peut-être par en petits groupes, voilà, de 5-6, et puis ben, je pense voilà, de voir un peu comment enfin, ce que j'ai pu dire en fait, comment ça. Ça vous rejoint, ou pas d'ailleurs, ça serait intéressant de l'entendre. Et puis voir un peu, voilà, vous un peu dans, je crois qu'on a fait un bon état des lieux, vous dans vos pratiques à la fois peut-être personnelles, mais aussi communautaires, quel est aujourd'hui, alors non pas votre date internet, c'est peut-être beaucoup trop vaste comme question, mais peut-être voilà simplement, quel est votre usage, enfin, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, est-ce que vous utilisez ou pas des réseaux sociaux dans vos communautés, lesquels, pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez en fait à dire ou à dire de vous-même, à dire de vos communautés à travers ces médias que sont les réseaux sociaux, en tout cas, ou est-ce qu'au contraire, d'être plutôt dans une posture, en fait, ben, on ne peut pas l'utiliser, c'est un lieu qu'il ne faut pas investir. Enfin, je serais un peu intéressé de vous entendre un peu sur cette thématique-là, et peut-être justement aussi d'échanger peut-être entre vous sur cette thématique, hein, de votre usage des réseaux sociaux dans vos communautés. Soit au niveau communautaire, soit au niveau personnel, si y a une pratique qui se fait au niveau personnel. Et après, on pourra aussi éventuellement, donc on peut donner une demi-heure, je ne sais pas, et puis jusqu'à 11h, jusqu'à
11h15. Ah, 11h15, et après, on fait normalement demande dans chaque groupe.
Et après, voilà, un petit rapport par voilà. Groupe. Et après, bon, ça va poser un temps d'échange, et puis éventuellement de questions. Ça va comme manière de faire?
Voilà, ça vous va? Donc, vous essayez de vous répartir un peu dans la salle pour ne pas vous gêner les uns les autres. Au X coin de la salle. Par groupe, quoi, on fait 7-8 hein, 7-8. Si possible, mettez des ordres différents pour que les communautés soient pas rassemblées ensemble. Hein. Et puis après,